sur Radio Pleine Lune 101.4, Sweet Jazzy Tonight on Radio Pleine Lune. On continue avec Alice Coltrane. Alice Coltrane est une harpiste. C'est pas souvent qu'on rencontre des harpistes et encore moins souvent dans le monde du jazz. Alors écoutons Alice Coltrane avec Charlie Haden et Ben Riley sur Radio Pleine Lune ce soir à 20h. Vous aurez l'immense plaisir d'écouter une émission, un dossier spécial sur l'éducation non sexiste.
Radio Pleine Lune sur Radio Zone, vous allez entendre une émission vers une éducation non sexiste. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, c'est 023 depuis la Suisse, 50 40 51 41. Ce soir jusqu'à 21h, une émission vers une éducation non sexiste. Fille ou garçon, c'est la même chose, oui ou non? Comment est-ce que l'école, les éducatrices, perçoivent les filles et les garçons? Comment est-ce qu'ils les traitent? Comment, à travers les jeux, les livres que les enfants reçoivent, se construit peu à peu cette différence, cette discrimination? C'est pour ouvrir un débat sur ce genre de questions qu'a été organisé un colloque pour une éducation non sexiste, colloque qui s'est tenu en novembre 85 à Lausanne. Ce colloque était organisé par différents groupes de femmes, les associations informelles, Femmes Féminisme et Recherche et le journal Femmes Suisse. Y participaient 200 à 250 personnes, presque toutes des femmes. Beaucoup des participantes étaient liées professionnellement au champ de l'éducation. Les participantes et participants se sont retrouvés dans différents ateliers. Avant Noël, Radio Pleine Lune a présenté ce qui s'était dit dans l'atelier sur les stéréotypes. Et ce soir, nous reproduisons ce qui a été dit dans un autre atelier, Jeux et livres pour la petite enfance. Nous vous présentons deux interventions. D'abord, une présentation de Raymonde Cafari, professeur de pédagogie à l'École d'études sociales et pédagogiques de Lausanne, sur les jeux. Et puis, Cécile Vachebrode, agrégée de lettres romancières de Paris, parlera des livres pour la petite enfance.
Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si?
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûlé?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique
ouais.
suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah.
Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la. Tu voulais. La, 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 la,
moi, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles. Tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah,
c'est
incendie.
Normal.
Ouais, ouais.
Ouais, la 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 la
sens pas comme si on commençait à tomber là, un
peu. Écoute, essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la.
Mais alors, on va tomber.
La la la. Mais
du quatrième étage.
C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La.
D'accord.
La 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 la.
La 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 la.
La 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 la.
Pardon, mais je pense à un truc.
Ouais.
On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatigante.
Pardon.
Non, on est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc,
ouais.
Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends?
Ouais, ouais.
On écoute l'intervention de Raymond Cafari sur les jeux pour la petite enfance.
Je commence donc sur les jeux. Pour la petite enfance. Le terme jeu, c'est un terme très vaste, mais je vais parler tout d'abord, essayer de me centrer sur les jeux en tant qu'objet, en tant que jouet, support du jeu de l'enfant. On verra tout à l'heure dans l'entretien si on peut élargir le propos. Le thème général, vers une éducation non sexiste, m'amène à m'interroger d'entrée si le jouet ou le matériel pour le jeu, pour les jeunes enfants, est, dans certains cas, un matériel qu'on peut considérer comme sexiste, c'est-à-dire qui prend en compte une différence réelle ou supposée, qui la traduit en termes de plus et de moins, en termes d'avantages et de désavantages, et qui peut-être, par un biais ou un autre, cherche à en tirer parti. Il y a là autour tout un discours traditionnel qui est au fond le jouet ou le matériel de jeu comme moyen de conditionner la personne. C'est ressenti de manière positive ou de manière négative. J'aimerais juste vous lire deux textes parce que je les trouve assez amusants à certains égards. L'un, c'est une citation de Victor Hugo, Les Misérables, qui a paru dans un ouvrage que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Idées reçues sur les femmes, qui est un ouvrage assez amusant. Et voilà ce qu'écrivait Victor Hugo. « Comme les oiseaux font un nid avec tout, les enfants font une poupée avec n'importe quoi. » Pendant qu'Éponine et Azelma emmaillotaient le chat, Cosette, de son côté, avait emmailloté le sabre. Cela fait, elle l'avait couché sur ses bras et elle chantait doucement pour l'endormir. La poupée est un des plus impérieux besoins et en même temps un des plus charmants instincts de l'enfance féminine. Alors vous constatez là le glissement. Hein? Dans la première phrase, c'était « les enfants font une poupée avec n'importe quoi ». Maintenant, c'est un des plus charmants instincts de l'enfance féminine. Soigner, vêtir, parer, habiller, déshabiller, rhabiller, enseigner, un peu gronder, se figurer que quelque chose est quelqu'un, tout l'avenir de la femme est là. Tout en rêvant, tout en jasant, tout en faisant de petits trousseaux et de petites layettes, tout en cousant de petites robes, de petits corsages, de petites brassières, l'enfant devient une jeune fille, la jeune fille devient une grande fille, la grande fille devient femme, le premier enfant continue la dernière poupée. Une petite fille sans poupée est à peu près aussi malheureuse et tout à fait aussi impossible qu'une femme sans enfant. Cosette s'était donc fait une poupée avec le sabre. Avec le sabre, oui, c'est tout ce qu'elle avait à disposition, hein. Un sabre. Plus près de nous, et peut-être moins anecdotique, Roland Barthes, dans Mythologie, qui est apparu en 1957, parle des jouets. C'est un texte d'ailleurs assez connu, et il condamne le côté mimétique et reproducteur du jouet. Il dit par exemple « Le jouet français signifie toujours quelque chose, et ce quelque chose est toujours entièrement socialisé. » Il cite des jouets qui représentent l'armée, la radio, la médecine, la coiffure, les transports, etc. Que les jouets français préfigurent littéralement l'univers des fonctions adultes ne peut évidemment que préparer l'enfant à les accepter toutes, donc toutes les fonctions adultes. Ce n'est pas tant d'ailleurs l'imitation qui est signe d'abdication que sa littéralité. Il vise là les jouets qui reproduisent de manière très minutieuse la réalité des objets de la vie adulte. Et il cite ensuite le problème par rapport à la petite fille. On peut par là préparer la petite fille à la causalité ménagère, la conditionner à son futur rôle de mère. Devant cet univers d'objets fidèles et compliqués, l'enfant ne peut se constituer qu'en propriétaire, en usager, jamais en créateur. Il n'invente pas le monde, il l'utilise. Donc le jouet serait porteur de cette reproduction des rôles, des fonctions sociales et des attitudes. Et l'enfant n'aurait pas de choix, ne pourrait pas être créateur face au jouet. C'est une vision que peu ou prou nous partageons tous. C'est notre agacement devant certains aspirateurs et machines à laver modèle réduit est là sans doute pour en témoigner. Je crois néanmoins qu'il y a un certain malentendu là autour. Le jouet n'est pas égal au jeu ou le jeu n'est pas réductible au jouet. Je pense pour ma part que le jouet ne conditionne que très partiellement le jeu. Le jeu, c'est autre chose que le jouet. Le jeu, c'est une aspiration de l'enfant, c'est un mouvement de l'enfant profondément lié à son développement, qui est un mouvement d'exploration, qui est un mouvement de découverte de soi, qui est un mouvement de découverte de l'autre, et puis parfois qui est simple divertissement. Hein. Mais le jouet est utilisé par le jeu, et c'est pas l'inverse qui se passe, c'est pas le jeu qui crée le jouet. Hein. Il faut, pour qu'un jouet soit dans un jeu, qu'il soit joué par l'enfant, il faut qu'il y ait auparavant quelque chose dans l'enfant qui ait l'attitude ludique. Et ceux d'entre nous qui ont des enfants savent le nombre de jouets qui ne sont pratiquement jamais utilisés, hein, qui passaient le moment de la nouveauté, de l'attrait du neuf, sont des choses mortes qui n'entrent jamais dans le jeu des enfants. Et savent aussi le nombre d'objets non prévus pour le jeu qui, eux, interviennent fréquemment dans le jeu des enfants. Donc les choses ne sont peut-être pas aussi simples qu'on le croit parfois en disant « mais le jouet, c'est un moyen de conditionnement, en donnant aux petites filles des dinettes et des cuisinières, des aspirateurs, on en fait de futures ménagères, et en donnant aux petits garçons des mitraillettes modèle réduit, on en fait de futurs guerriers. » Les choses sont peut-être un peu plus compliquées. Mais continuons de regarder du côté du jouet. Il est clair que le jouet n'est pas neutre. Hein. Il y a des jouets qui sont conçus, pensés, ou qui suscitent des images garçons, des images filles. Et il y a des jouets dont tout le monde est d'accord qu'ils conviennent et sont adéquats pour les deux sexes. Si vous regardez, et on le fera tout à l'heure, les catalogues de jouets, c'est tout à fait implicite dans le classement des jeux qu'ils font. Il y a des pages pour les garçons, il y a des pages pour les filles, il y a des pages pour tout le monde. Est-ce que ça signifie qu'il peut y avoir, par rapport aux jouets, une attitude sexiste ? L'attitude sexiste consisterait à attribuer aux garçons un matériel précis, aux filles un matériel précis, et empêcher les uns et les autres d'aller cueillir, pêcher ou de recevoir des éléments qui appartiennent à l'autre sexe. Alors ça, c'est sûrement un modèle qui a été très, très prégnant à une certaine époque et qu'il reste en partie dans la tête de certaines personnes et peut-être dans la tête de certains marchands. Il m'a paru plus adéquat de vous apporter des catalogues, d'abord parce que c'est la saison, et puis ensuite parce que c'est infiniment plus maniable. C'est les catalogues qu'on a reçus à Lausanne dans les boîtes aux lettres ces derniers jours. Hein. Celui-ci, des jouets Weber, me paraît véhiculer une image relativement, même tout à fait à certains égards, sexiste du jeu et du jouet. C'est-à-dire que le classement qu'on retrouve dans tous ces catalogues est renforcé par des photos d'enfants qui sont mises en rapport avec les jouets. Alors, à la page des poupées, des trousses de coiffure, etc., vous avez une petite fille, je le ferai circuler tout à l'heure, qui est très petite fille, hein, une petite fille en robe, une petite fille mignonne, et qui tient dans sa main, je ne sais pas trop quoi, un sèche-cheveux ou une brosse. À la page des jouets supposés pour garçons, eh bien, vous avez un petit garçon, bien petit garçon, hein, avec un pantalon foncé, un pull vert, pas d'erreur, hein, on ne peut pas se tromper. Les choses sont peut-être encore plus pernicieuses, et là où on pourrait être choqué, c'est que par rapport à certains jeux intéressants, ici, enfin intéressants, supposés développer l'intelligence, des bêtises, ici un jeu de lettres, c'est un garçon, hein, Il y a un jeu de peinture sur un chevalet. C'est un garçon aussi. Un jeu d'imprimerie, c'est un garçon. Il y a des instruments de musique, trois garçons et une fille. Hein. Tout ce qui est un peu créatif, c'est plutôt pour les garçons et pas pour les filles. Hein. Autre exemple, c'est un petit catalogue qui, lui, ne présente pas des photos d'enfants, mais des petits dessins, d'ailleurs assez hideux, où l'on voit des enfants, garçons et filles, en train de jouer. Et en le feuilletant, vous constaterez que le petit garçon est présenté dans des postures très diverses. Hein. Il est souvent à plat ventre ou accroupi. Enfin, il semble avoir une grande liberté de mouvement. Il paraît aussi parfois très, très actif, très dynamique et très content d'être là. Il y a des images où on le voit rire aux éclats. Il y a des images où on voit tirer la langue parce qu'il se donne tout entier dans son jeu. La petite fille, on la voit à deux reprises, comme ça, avec les doigts sur la bouche, un peu benette, un peu bornée. Bon, j'étais pas très heureuse de voir ça. Donc, cette vision, il y a des choses pour les garçons, il y a des choses pour les filles. Et puis,
je sais, la page maître de l'univers pour les garçons et ménage pour les filles.
Cette manière de considérer les choses, il y a des choses pour les uns, il y a des choses pour les autres, et puis quand même ce qui est plus créatif et qui implique une activité plus grande, c'est plutôt pour les garçons, existe encore. Donc il y a certainement une attitude sexiste par rapport aux jouets. Il pourrait y avoir une attitude antisexiste qui prendrait le contre-pied et qui consisterait à supprimer ce qui a une connotation par trop liée au sexe, plus d'inettes, plus d'aspirateurs. Quand on fait des poupées, on en ferait la moitié avec un sexe de garçon. Bon, ces poupées existent, mais elles sont très peu nombreuses. La moitié qui ressemble à une petite fille, etc. Cette attitude-là, dans la réalisation, dans la concrétisation, dans la fabrication des jouets, elle est très peu probable. Parce que le jouet, c'est un marché. Et que le jouet va être reproducteur des stéréotypes et des idées ambiantes. On va fabriquer ce qui se vend, c'est-à-dire ce qui est dans la tête des adultes. La particularité du jouet, pour les jeunes enfants en tout cas, étant que les consommateurs ne sont pas les acheteurs. Hein. Il y a un décalage et du coup, les réels besoins des enfants en matière de jouets ne sont peut-être pas ceux qui s'expriment par le marché. Hein. Ce qui s'exprime, c'est les idées des adultes par rapport à ce que l'enfant doit avoir pour jouer. Donc, une attitude antisexiste dont on peut penser ce qu'on veut, elle serait peut-être pas très adéquate ou pas très riche, est peu probable dans ce domaine. Alors, que serait l'attitude non sexiste? Bien, c'est l'attitude qui consisterait à mettre à disposition de l'enfant, garçon ou fille, les jouets qui correspondent à son âge, à ses goûts, à ses besoins et à ses manières de jouer, qui sont peut-être différentes selon qu'il est garçon ou fille, mais qui sont certainement différentes selon son individualité. D'un enfant à l'autre, le jeu varie relativement considérablement. Donc, il consisterait à ne pas mettre d'étiquette sur un matériel, mais à l'offrir, à le proposer aux enfants. Et toujours, en faisant cette démarche extrêmement simple qui consiste à feuilleter des catalogues, si l'on prend par exemple celui-ci, c'est aussi un catalogue tout récent, ces auteurs ont opté alors pour la traditionnelle classification entre différents types de jouets, mais ont fait se promener dans le catalogue un petit personnage comme ça, qui a une espèce de grande combinaison pyjama rouge, un bonnet rouge à gros pompons marron qui évoque un peu le Père Noël, mais dont on ne sait pas en fait si c'est un garçon ou une fille. Hein. Et on le retrouve à presque toutes les pages, dans toutes sortes de postures et d'attitudes, parfois amusantes, garçon ou fille. Un petit effet sournois, c'est que dans les pages poupées, il n'a pas de bonnet. On ne sait toujours pas si c'est un garçon ou une fille. C'est un enfant qui a des cheveux courts, blonds. Bah bon. Mais le bonnet est loin, n'est plus là, dans les jeux vraiment très filles, qui sont les deux pages de poupées. C'est assez amusant à constater. Et puis, il y a des catalogues alors qui présentent, bon, je les laisse à disposition, c'est peut-être pas utile de les citer, qui présentent simplement les jouets, sans aucune image d'enfant, garçon ou fille, et même pour celui-là, qui est en fait une espèce de grande page, grande affiche, avec un classement beaucoup moins formel et beaucoup moins arrêté que dans les autres que je vous ai fait passer. Donc il y a certainement une variété d'attitudes et il y a certainement des aspects sexistes, en tout cas dans le marché du jouet. Mais peut-être qu'il faut essayer de se livrer à une analyse un peu plus fine pour voir ce qu'est le jouet et comment les choses se présentent, aussi par rapport aux différents âges. Si l'on prend les jouets pour les très jeunes enfants, pour les enfants jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, on peut dire, je crois légitimement, qu'il n'y a guère de différence garçon-fille, qu'il y a en fait un matériel assez neutre. Ce sont ces jouets de plastique qui parfois donnent lieu à des emboîtements, ce sont des objets à tirer, à traîner derrière soi, ce sont des objets qui roulent, sur lesquels on s'assoit pour les faire avancer, ce sont les animaux en peluche, etc. Oui, véritablement, les différences sont fort peu marquées, et c'est aussi peut-être dans cette catégorie d'âge que l'on trouve les jouets les mieux étudiés. Je pense à certains jouets comme les jouets Fisher-Price par exemple, qui sont faits de manière quasi expérimentale. C'est bien simple à expliquer, c'est que les enfants de cet âge sont quand même loin des adultes. L'adulte peut difficilement se projeter dans le jeu d'un enfant d'un an, alors qu'il peut se projeter dans le jeu d'un enfant de 5 ans. Donc l'adulte aura des attitudes qui sont peut-être plus ouvertes par rapport aux jouets pour le tout petit, parce que c'est un monde qui lui est un peu inconnu. Tandis que par rapport à des enfants plus grands, l'adulte a l'impression qu'il sait, puisqu'il a des souvenirs et qu'il a des opinions. Le panorama, quand on aborde les jouets pour les enfants entre, disons, 2 ans et demi et 6-7 ans, est alors complètement différent. C'est peut-être à cet âge-là qu'on a, de la manière la plus marquée, des jouets pour les filles, tout ce qui tourne autour du ménage. Je dis pour les filles parce que c'est comme ça qu'on l'entend d'ordinaire, c'est pas comme ça dans ma tête. Des jouets pour les garçons, tout ce qui roule, tout ce qui est véhicule, et un certain nombre de jouets neutres, comme des jeux de construction. Par exemple, les Legos, qui sont très utilisés à cet âge-là, au départ, c'est un jeu qui est investi aussi bien par les filles que par les garçons. Curieusement, vous savez que la firme Lego, qui a développé les briques Lego pendant longtemps, a éprouvé le besoin à un certain moment de différencier et de faire des Lego pour les filles. Vous pouvez monter toute une petite maison, les choses pour meubler la maison de poupée, etc. Mais ça va jusqu'au bouquet de fleurs qu'on pose sur la commode. Et des Lego pour les garçons, on construit des choses qui roulent, des trains, des voitures, etc. Comme si le marché finalement impose peut-être ou rend attrayant la construction de la réalisation de ce type d'objet que les adultes attribueront à des filles ou à des garçons. On trouve le reflet de cette vocation du jouet entre guillemets dans la tête des adultes sur les emballages très souvent. Hein. L'emballage du garage montre un petit garçon qui joue. L'emballage de la maison de poupée montre une petite fille. Certains jeux, je pense à des jeux électroniques comme le Bordy Mini qu'on utilise déjà avec des petits, montrent alors filles et garçons. Même dans des jeux pour lesquels on se dirait ben, finalement ça doit intéresser autant les garçons que les filles, un jouet Fisher-Price assez connu qui est l'école a sur la boîte la photo d'une fille. Toujours chez Fisher-Price, il y a une très belle et récente pompe à essence, il y a un garçon. Donc je crois que non seulement on développe un matériel qui se réfère à des images socialement chargées de activité femme, activité homme, mais on renforce cela par le matériel de vente, certains catalogues et en tout cas les boîtes des jouets. Ces jouets qui sont les supports des activités traditionnellement attribués aux femmes ou aux hommes, c'est normal qu'ils existent à cet âge-là en très grand nombre, parce qu'ils correspondent quand même à un intérêt ou à un goût très vif qu'ont les enfants de cet âge, entre 3 et 6, 7 ans, pour imiter, reproduire et varier, inventer autour des activités des adultes. Donc ils correspondent bel et bien à un intérêt vif des enfants pour ce type de matériel. Ils correspondent aussi, je crois, mais on pourra discuter de ça tout à l'heure, à des choix majoritaires des filles pour ce qui est support d'activités considérées comme féminines et des choix majoritaires des garçons pour ce qui est support d'activités masculines, parce qu'il y a à cet âge-là tout un travail de découverte de soi et de découverte du monde, c'est-à-dire de découverte de soi, petite fille, dans un monde où les femmes joue un certain rôle, ou de découverte de soi, petit garçon, dans un monde où l'image qu'on a des hommes n'est pas semblable à celle qu'on a des femmes. Donc il y a tout un mécanisme qui tourne autour de ce qu'on appelle l'identification, mais qui est peut-être un peu plus complexe que cela, qui est aussi un mécanisme de découverte de l'environnement social, qui fait que les choix des filles et des garçons sont différents à cet âge-là. Et tout à l'heure, je pourrais vous donner des indications plus précises. Mais toutes les petites filles utilisent aussi et souhaitent utiliser du matériel garçon, entre guillemets, voiture, garage, marteau, etc. Parce